Françoise Hygel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais le 25 mars dernier, 25 mars 2018, nous célébrions le centenaire de la mort de Claude Debussy, de notre grand Claude Debussy. Or, il y a une question, moi, qui me taraude toujours chez les grands compositeurs, c'est comment est-ce qu'ils sont devenus de grands compositeurs? Enfin, je veux dire, à partir du moment où ils apprennent la musique, en général enfants, adolescents, ils se mettent à composer leurs premières pièces, et à un moment donné, on se dit, ça y est, ils y sont. Ils écrivent leur premier chef-d'œuvre. Et donc, l'émission d'aujourd'hui est intitulée « Comment Debussy est devenu Debussy ?». Nous allons donc nous intéresser à ses œuvres de jeunesse. Et vous allez voir qu'elles sont toutes merveilleusement musicales, qu'elles sont charmantes, qu'elles sont fraîches. Et de temps en temps, on entend tout de suite que c'est du Debussy, même déjà du grand Debussy. Et à d'autres moments, c'est très beau, mais ce n'est pas sûr qu'on aurait reconnu, si on avait écouté l'œuvre sans le savoir avant, qu'il s'agissait de Debussy. Alors je vous propose de commencer par un extrait de son trio en sol majeur pour violon, violoncelle et piano. Debussy a alors 18 ans, il passe l'été 1880 en Italie comme professeur de piano des enfants de Madame von Meck, avec qui il fait en plus du quatre mains, donc c'est à la fois le professeur de piano de ses enfants et le partenaire de quatre mains de cette célèbre mécène, mélomane, notamment c'est elle qui a mécéné presque toute sa vie Tchaïkovski. Alors Debussy profite de son temps libre pour composer ce fameux trio en quatre mouvements. Et d'ailleurs, Madame von Meck va montrer ce trio au célèbre compositeur russe. Et Tchaïkovski est intéressé, mais il émet un certain nombre de critiques. Alors les critiques de Tchaïkovski sont assez fondées, il faut bien le dire, mais ça ne m'empêche pas d'aimer particulièrement ce trio, qui est une œuvre dédiée par Debussy à son professeur d'harmonie au Conservatoire de Paris, avec la mention suivante, beaucoup de notes, accompagnées de beaucoup d'amitié, offertes par l'auteur à son professeur, Monsieur Émile Durand. J'ai choisi de vous faire entendre le second mouvement de ce trio, un mouvement qui tient autant du scherzo que de l'intermezzo, un mouvement malicieux, tendre et délicatement sentimental dans sa partie centrale. Opposition de nuances, mordant, pizzicato, notes piquées et phrases déliées, j'adore.
Thank you.
Nous écoutions donc le scherzo intermezzo, c'est-à-dire le second mouvement du trio en sol majeur, une œuvre de jeunesse de Claude Debussy, composée en 1880, donc Claude Debussy a 18 ans, dans l'interprétation du trio Ravel. Vous avez peut-être comme moi goûté cet esprit, cette distance, ce savoureux mélange d'humour et de fausse sentimentalité dont Debussy ne se départira jamais jusqu'aux ultimes intermèdes et sérénades des sonates pour violon et pour violoncelle de la toute fin de sa vie. Je vous propose d'écouter maintenant une pièce pour piano seul, une pièce qui est très aimée des amateurs parce qu'elle n'est pas trop difficile techniquement à jouer. Et c'est une pièce que moi j'aime bien, qui s'intitule Rêverie. C'est une œuvre qui a beaucoup de charme, de suavité, une œuvre qui fait la part belle à la courbe, à l'arabesque, à la ligne. Ça fait penser, vous savez, à cet art nouveau qu'aimait tellement Debussy. L'art nouveau, vous voyez, c'est Guimard, qui était un contemporain de Debussy, avec les stations de métro à Paris, avec toutes les volutes florales, moi j'adore. Et il y a débat sur cette rêverie, parce que beaucoup de spécialistes considèrent avec un peu de mépris cette pièce, comme une sorte de bluette, un petit peu trop sucrée, vous voyez, comme une crème à la vanille, où on aurait eu la main un petit peu lourde sur le sucre en poudre. Et moi pourtant je l'aime bien, j'ai de l'affection pour cette pièce, il me semble qu'elle a une particularité, c'est que dès les premières notes, un espace s'ouvre, une sorte de suspension temporelle qui n'appartient qu'à Debussy. Je vous propose d'écouter maintenant et de partager avec moi le plaisir de cette rêverie. Thank you. Voilà, nous écoutions La Rêverie, une œuvre de jeunesse de Claude Debussy. Je vous l'ai dit tout à l'heure, certains pensent que ce n'est qu'une bluette sentimentale de jeunesse qu'il faut vite oublier. Moi, au contraire, j'aime beaucoup cette pièce. Et alors, pour l'interprétation, j'ai pas mal hésité et j'ai choisi Denis Pascal, que vous venez d'entendre, qui est un grand pianiste français, professeur de piano au Conservatoire de Paris, s'il vous plaît, et directeur du célèbre festival Ton voisin d'Albi. La Rêverie que vous venez d'entendre est extrait d'un disque paru en 2002. Et alors, d'une part, c'est en ce moment mon interprétation favorite de cette rêverie de Debussy, et d'autre part, cela me permet, de mettre fin à une sorte de regret que j'avais et qui remonte à il y a un certain nombre d'années. Je vous explique. Je devais me rendre au mariage de deux amis, et bon, j'ai eu un contretemps, je n'y ai pas assisté, et tout le monde m'a dit que bon, côté petit four, tout ça, je n'avais rien manqué de spécial, mais que par contre, j'avais manqué un intermède musical où on avait entendu un pianiste que je ne connaissais pas, qui s'appelait Denis Pascal, interpréter merveilleusement bien des pièces de Debussy. Alors voilà, maintenant c'est fait, plus de regrets, nous avons écouté ensemble Denis Pascal dans Debussy, et je vous propose de rester du côté du piano avec un autre grand pianiste français, Jean-Yves Thibaudet. Alors nous allons l'écouter dans La danse bohémienne, une autre œuvre que Debussy écrit à l'âge de 18 ans. Oui, parce que Debussy, ça n'est pas que des pièces un peu lentes, un peu suaves, un peu suspendues, douces, voluptueuses. C'est aussi l'influence espagnole, cette influence tellement importante pour les compositeurs français de l'époque. Et justement, je trouve cette influence espagnole très saillante dans cette danse bohémienne. Oui, je sais, elle ne s'appelle pas danse espagnole, elle s'appelle danse bohémienne. Mais après tout, dans le célèbre opéra de Bizet, Carmen n'est-elle pas présentée comme une bohémienne ? Nous écoutions la pittoresque danse bohémienne pour piano de Claude Debussy, interprétée par le pianiste français Jean-Yves Thibaudet. Et je vous propose maintenant d'entrer dans le domaine de la mélodie. La mélodie pour voix et piano. Debussy en a composé énormément, il en a même composé dès l'âge de 13 ou 14 ans. C'était un genre très prisé dans les salons à l'époque. On aimait entendre les musiciens mettre en musique les poèmes du jour. Celle que vous allez entendre maintenant s'intitule « Beau soir » sur un poème de Paul Bourget qui parle du soleil couchant, des rivières qui sont roses, du tiède frisson qui court sur les champs de blé, et j'aime beaucoup ces deux vers. « Un conseil d'être heureux semble sortir des choses et monter vers le cœur troublé. »
Tiède conseille d'être heureux, semble sortir des choses et monter vers le cœur troublé. Un conseil de goûter le charme d'être
nous écoutions Gérard Souzel, l'un des chouchous récurrents de La Preuve par Z, dont la chaude voix de baryton faisait entendre avec une étonnante ferveur la mélodie Beau soir de Claude Debussy, accompagné au piano par Dalton Baldwin. Mais après une voix d'homme, il est juste que nous écoutions une voix de femme, non pas pour la parité, mais tout simplement parce que la plupart du temps, lorsque le jeune Debussy compose, il pense à une certaine Marie-Blanche Vanier dont il est éperdument amoureux. Et d'ailleurs, lorsque paraît le premier recueil d'une vingtaine de mélodies choisies de Claude Debussy, ce recueil comporte une dédicace, évidemment une dédicace à Marie-Blanche Vanier, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire cette dédicace. À Madame Vanier, ces chansons qui n'ont jamais vécu que par elle et qui perdront leur grâce charmeresse si jamais plus elles ne passent par sa bouche de fée mélodieuse. L'auteur éternellement reconnaissant, Claude Debussy. Tiens, j'aime particulièrement cet adjectif de charmeresse, je ne l'avais jamais rencontré. Il faudra que je l'utilise plus souvent dans mes conversations de tous les jours. Alors continuons donc notre émission, je l'espère, charmeresse, avec une mélodie de Debussy chantée par une voix de femme. Je vous propose un Pierrot sur un texte de Théodore de Banville, avec de nombreuses citations au piano au clair de la lune, mon ami Pierrot. Vous allez voir, c'est très amusant et nous écoutons cette mélodie interprétée par la piquante soprano Julie Fuchs. toute l'ironie du monde passait dans la voix de Julie Fuchs pour ce Pierrot de jeunesse, une mélodie donc écrite à l'âge de 19 ans par Claude Debussy. J'espère que vous avez fait votre miel de toutes les petites citations d'Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Moi, j'aime beaucoup. En plus, c'est ce ton un petit peu léger, un petit peu Prime Sautier, qui est aussi une caractéristique de l'art de Debussy. Et maintenant, je vous propose de nous plonger dans un grand bain d'orchestre avec une œuvre un petit peu énigmatique, pas très connue. Elle est intitulée Printemps et qui est une œuvre que j'aime beaucoup et qui présente la caractéristique d'être en quelque sorte à la fois une œuvre de jeunesse et une œuvre de vieillesse. Je m'explique. Printemps est composé en 1887, Debussy a 25 ans, et il séjourne à la Villa Médicis à Rome, c'est normal, il va séjourner plusieurs années là-bas puisqu'il a gagné le Grand Prix de Rome. Alors il s'ennuie un petit peu parce qu'il est séparé de sa chère Marie-Blanche Vanier, mais ça ne l'empêche pas de remplir ses obligations et de composer régulièrement les œuvres qu'il doit envoyer aux membres de l'Institut, puisque c'est à l'époque l'Institut de France qui décerne le Prix de Rome et qui préside aux destinées de la Villa Médicis. Mais en fin de carrière, en 1912, donc peu de temps avant sa mort, Debussy considère qu'il faut totalement repenser cette pièce. C'était une pièce avec des chœurs, il en fait une sorte de suite symphonique, enfin il appelle ça suite symphonique, mais il n'y a que deux mouvements, et vous allez entendre cette musique que moi j'aime particulièrement, qui est presque, j'allais dire presque une musique de film, je ne devrais pas dire ça, mais pourtant, vous allez voir, on se laisse porter. Après un début calme et tranquille, la rêverie va s'intensifiant, parfois jusqu'à un romantisme quasi wagnérien, en tous les cas extrêmement sensuel. Nous écoutions le beau premier mouvement de Printemps de Claude Debussy, interprété par l'orchestre de Cleveland sous la direction de Pierre Boulez. Et en réécoutant avec vous cette musique rêveuse, suspendue, mais comportant de temps en temps d'intenses bouffées sensuelles, je me suis dit qu'en quelque sorte, on pouvait considérer ce premier mouvement de Printemps comme la prémonition du célèbre prélude à l'après-midi d'un faune, son grand chef-d'œuvre qu'il va composer plus tard à l'âge de 32 ans. Mais je reviens à quelque chose dont nous avons parlé au tout début de l'émission, ce goût de Debussy pour la ligne courbe, pour l'art floral, pour l'art nouveau. En un mot, son goût pour l'arabesque. Et justement, Debussy va composer deux arabesques. Ce mot arabesque qui résume si bien la première période de Debussy. Alors la première arabesque est extrêmement connue, c'est même un des tubes de la musique de Debussy, particulièrement parce qu'elle a été utilisée et réutilisée par un certain nombre de publicitaires dès qu'il s'agit de montrer des parfums ou des chocolats de Noël. On entend les glouglous de l'arabesque, et toujours dans une interprétation avec beaucoup de pédales, quelque chose d'un peu aquatique. Mais justement, ce n'est pas une interprétation de ce type que je voudrais vous faire entendre maintenant, mais plutôt une interprétation plus sèche, plus précise, plus stylisée, et qui est due à Samson François. Vous savez, Samson François, c'est quand même l'un des plus grands pianistes français qui n'ait jamais existé, surtout pour la musique française, et vous allez voir que dans son interprétation, Samson François semble davantage intéressé par l'arabesque que par l'eau, et qu'il préfère dessiner plutôt que miroiter. Thank you. Nous écoutions Saint-Saëns-François dans la première arabesque pour piano de Claude Debussy, l'interprétation sans doute la plus originale de toutes celles qui existent de cette si célèbre pièce pour piano. Et nous passons maintenant à la seconde arabesque qui est moins connue, mais qui complète parfaitement bien la première arabesque. La première est plus goulayante, plus ruisselante, plus paisible. La seconde est plus vive, plus malicieuse, plus piquante, une sorte de saute-mouton plein de finesse et d'ironie. Nous écoutions le pianiste hongrois Zoltán Coxis dans la version la plus rapide jamais enregistrée de la seconde arabesque de Debussy pour piano. Une virtuosité qui transgresse sans aucun doute la pensée de Debussy, mais que j'aime tellement écouter que je n'ai pas résisté au plaisir de partager cette interprétation avec vous. Alors certaines pièces pour piano de Debussy ont été orchestrées de son vivant, par des contemporains, par des amis. C'est le cas notamment de la célèbre Petite Suite. Au départ, cette suite en quatre mouvements est composée pour piano à quatre mains. Mais en 1907, elle est orchestrée par Henri Bussert, avec l'assentiment enthousiaste de Debussy. Alors moi j'aime beaucoup Henri Bussert, c'est un grand chef d'orchestre et compositeur français, et puis c'est en quelque sorte mon grand-père pédagogique, puisqu'en tant que professeur de composition au Conservatoire de Paris, il a eu comme élève non seulement Henri Dutilleux, mais aussi Jeannine Rueff. Et Jeannine Rueff, ça a été ma professeure d'harmonie lorsque moi-même je suis entré tout petit au Conservatoire de Paris. Alors je vous propose d'écouter maintenant le dernier mouvement de cette petite suite intitulée « Ballet » dans l'interprétation haletante de Paul Paret à la tête de l'Orchestre Symphonique de Détroit. Thank you. C'était le joyeux, le brillant final de la petite suite, un final intitulé Ballet, interprété par l'Orchestre Symphonique de Détroit sous la direction de Paul Paré. Et maintenant, le tube, la pièce la plus connue de toute l'œuvre de Debussy, qui n'a que 28 ans lorsqu'il la compose, le fameux Clair de lune, extrait de la suite bergamasque pour piano. Une musique paysage, d'un calme feutré, d'une incroyable beauté, un tube de la musique classique, transcrit, utilisé, réutilisé au cinéma, dans la publicité et pour un nombre impressionnant de sites internet et d'attentes téléphoniques. Et pourtant, on a beau l'avoir entendu et réentendu dès les premières notes, le miracle opère toujours. On est saisi et l'on écoute bouche bée jusqu'à la fin de la pièce, le temps se suspendre et nous envelopper de douceur. Le premier titre donné par Debussy à sa pièce n'était-il pas « Promenade sentimentale » ? C'était le célèbre Clair de lune pour piano de Claude Debussy, un extrait de sa suite Bergamasque, et nous profitions de la sensibilité, du phrasé fin et velouté de l'un des plus grands pianistes debussistes français, j'ai nommé Pascal Roger. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Dorian Segre, chef opérateur du son Kevin Pelot. À la semaine prochaine.